Voilà, bien, j'ai, je crois, à peu près tous vu avant le début de ce culte. Je suis heureux de me retrouver parmi vous, petit troupeau du Seigneur, petite brebis, non pas égarées, mais rassemblées. Donc voilà, je termine ma tournée comme d'habitude. On fait Dijon, ensuite Nancy. J'étais allé parce que je passais au CHU un contrôle de ma pauvre cervelle. Ensuite en Allemagne, à Tuttlingen, puis à Dijon et maintenant au Creusot. Voilà. Donc je ne voyage pas beaucoup. Voilà, vous avez compris. Je remercie le Seigneur de pouvoir le faire encore et de profiter de mes enfants et petits-enfants. Et puis de revoir des chers frères et sœurs. Parce que vous êtes pour moi de chers frères et sœurs, même les nouveaux visages que je découvre aujourd'hui. Et vraiment, nous ne pouvons qu'être reconnaissants à notre Dieu pour tant de bonté, pour ses joies partagées. Et nous avons besoin d'être ensemble, de nous soutenir, surtout vu l'évolution des événements de ce monde. Alors, comment allez-vous ce matin? Apparemment, ça va. Oui. Je vois des mines réjouies. Ben, vous ne portez pas de masque, hein, donc ça doit aller. Hein. Il y a des masques de carnaval, de Mardi Gras, c'est quand même encore récent. Il y a des masques de théâtre, des masques de fer, de velours. Il y a aussi des masques de beauté. Enfin, ça, c'est pour les sœurs. Enfin, c'est pas grave, puisque de toute façon, les pharmacies sont en rupture de stock de masques. Et des escrocs avisés, diffusent des masques qui ne servent à rien, de mauvaise qualité, en les faisant payer cher. Donc, finalement, il y a toujours des gens qui profitent des situations, même des situations les plus dramatiques. C'est ainsi. Mais les événements qui surgissent les uns après les autres, c'est ça la vie, nous surprennent souvent. On ne s'attend pas. Surtout lorsque ces événements sont dramatiques, tragiques, des catastrophes, des désastres. Enfin, vous êtes au courant de ce qui se passe, je suppose, de cette effervescence qui, depuis plusieurs semaines, agite le monde, on doit dire, et de cette curieuse épidémie qui se propage assez rapidement depuis quelque temps. Responsable, si on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, c'est pas un être vivant, à mon avis. Bon, enfin, c'est une molécule d'acide nucléique qui se reproduit dans des cellules vivantes et qui va de l'un à l'autre. Et quand on sait que virus, ça veut dire poison ou venin, on tremble un peu. Alors, est-ce que nous serons contaminés à notre tour? Je sais pas, vous vous êtes posé la question, peut-être. Difficile à dire, hein. Il paraît qu'il y a un cas à Dijon, depuis peu. Nous entendons bien des choses, des avis contradictoires, les uns veulent nous rassurer, d'autres sont plus pessimistes. Épidémie, pandémie, c'est-à-dire épidémie généralisée. Bon, je ne vais pas refaire le bulletin d'information, hein. De toute façon, il change tous les jours. Donc, nous sommes dans l'incertitude pour la suite, n'est-ce pas? Et cela nous met plus ou moins mal à l'aise, ou nous inquiète, ou nous angoisse. Alors le meilleur remède, si j'ose dire, c'est de considérer ce que dit la Bible. Alors je vous invite à faire trois courtes lectures. On va prendre dans l'ordre, puisqu'on était dans les psaumes ce matin, on va continuer dans les psaumes. Alors, quelques versets au psaume numéro 31. 31. Les versets 15 et 16. 31. C'est un psaume de David. Verset 15. Bon, sautons ce qui précède, bien sûr. Il s'agit de description d'épreuves de la part de David. Et il dit ceci, en pensant à ceux qui lui en veulent, à ses ennemis. Mais en toi, je me confie. Ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Deuxième lecture, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, un peu plus loin, donc c'est le livre qui suit, les psaumes. Alors, chapitre 16. Oh, nous pouvons lire à partir du verset... Oui, ben, nous lisons à partir du verset premier. Les trois premiers. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Enfin, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4. Alors, Jacques, chapitre 4, j'y suis. Voilà. Donc, Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. Bon, ce n'est pas tout à fait notre contexte d'aujourd'hui, dans notre société, mais enfin, ça correspond à des personnes qui existent encore aujourd'hui. Donc, nous n'allons pas le méditer en détail. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Voyons. Voyons, c'est pas dans le texte. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, c'est le cas ? Oh, vous savez, vous, je m'en doute. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors, nous allons considérer notre propos en trois parties. Incertitude, c'est l'état actuel, si j'ose dire, certitude, ça changera un peu, et puis attitude. Alors d'abord, l'incertitude. Jacques, nous voulons le lire, écrit, « Vous ne savez pas ce qui vous arrivera demain. » On a envie d'ajouter « heureusement », parfois. « Car qu'est-ce que votre vie, une vapeur qui, par définition, se dissipe rapidement ?» Qu'est-ce que votre vie ? Elle ne vaut pas cher, hein ? Enfin, sauf aux yeux de Dieu. C'est une brume, un brouillard. Vous avez tous déjà observé le brouillard le matin. Hein ? Certains jours, on ne voit pas grand-chose. Et puis, peu à peu, le soleil perce ce brouillard, les nappes brumeuses se déchirent, d'autres viennent un peu, il y a des mouvements, et soudain, le ciel apparaît bleu. Le brouillard a complètement disparu. Eh bien, il en va ainsi de notre vie. Ce qui signifie qu'elle est brève. Même s'il y a de plus en plus de centenaires. Elle est brève. On proclame que l'espérance de vie augmente, ce qui semble assez vrai. Mais c'est ratif. Notre ancêtre Adam a vécu 93 ans. Non, 930 ans. Et Abraham, 175 ans. Vous voyez vivre 175 ans déjà ? Je ne sais pas dans quel état vous serez, mais je ne serai pas là pour le voir. Ainsi donc, notre vie est fragile. Elle est éphémère. Et malgré les progrès de la médecine, de la science, de la technologie, il y a encore et toujours des fléaux. Il y a des épidémies, des catastrophes naturelles, et il y en a beaucoup ces mois passés, qui emportent des êtres humains sans prévenir. Et ça, chaque seconde, peut-on dire. L'apôtre Pierre, lui, cite le prophète Ésaïe pour donner une illustration, une autre illustration de la même réalité. Et Ésaïe, qui est repris par Pierre, Ésaïe 40, « Toute chair est comme l'herbe. » Hein, c'est pour les véganes. Hein. Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. C'est joli les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Presque plus rien. Une vie brève, certes, et une mort inévitable, inéluctable, à laquelle, hélas, de plus en plus, l'humanité ne veut pas ou plus croire. Elle veut ignorer la mort, elle la repousse, enfin bref, on veut mourir dans les meilleures conditions possibles. Bref, c'est comme ça. Alors les hommes dont nous parlait Jacques, je ne veux pas entrer dans les détails, faisaient des projets, ils planifiaient l'endroit, nous irons dans telle ville, la durée, nous passerons une année, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben le but, c'est de trafiquer. Et pourquoi trafiquer ? Pour gagner de l'argent. C'est ça que pensent certains hommes, nous dit Jacques. Et il les rappelle à la réalité en disant « Mais vous n'êtes rien et vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Faites des projets, mais ceux-ci seront peut-être anéantis. Vous ne savez pas ce qui arrivera. Parce que notre destinée est dans la main de Dieu. Même si, même pour les incroyants, leur destinée est dans la main de Dieu. Alors nous pouvons faire des projets, et nous en faisons. Hein. Nous pouvons faire des provisions. Et en ce moment, certaines personnes se précipitent dans les supermarchés. Ça fait le bonheur des, hein, des enseignes, comme on les appelle. Nous pouvons faire des projets en toute légitimité. L'Écriture nous y invite souvent. Mais notre vie, en fait, c'est notre vie de l'instant présent. Le passé est passé. Je suis arrivé tout à l'heure, ici, c'est passé, c'est fini. Nous sommes dans le présent. Et notre présent, c'est ce culte. Et puis dans quelques minutes, quelques moments, ça sera déjà du passé. Nous serons à table. Mais ça ne sera pas la fin. Il y aura après la digestion, etc. Bref, la journée va s'écouler. Ce qui compte, c'est le présent. Alors, 02, 03, 20, 20. Ce n'est pas un numéro de téléphone. Hein. Il y a un code. C'est demain, 2 mars 2020. C'est demain. Vous savez ce qui arrivera demain ? Bon, vous avez peut-être fait des projets, moi j'en ai fait quelques-uns, quoique maintenant. Mais où serons-nous demain ? Oh, une chose à peu près sûre, c'est que ce sera un temps moyen, hein, moitié éclairci, moitié averse. Hein. Forcément, ce sera le mois de mars. Est-ce que nous serons encore en vie demain ? Oh, je ne veux pas noircir le tableau, ni vous attrister. Ben, nous ne savons pas. Nous disons, nous l'espérons. Si Dieu le veut, hein, ça c'est la grande formule des chrétiens. Si c'est la volonté de Dieu. Notre service du Seigneur, son importance, c'est aujourd'hui. Parce que nous vivons dans le présent. Il y a des gens qui sont toujours dans le passé. Hein. Ils finissent par broyer du noir. Il y en a qui sont tout le temps dans l'avenir, alors ils sont nulle part. Notre service de Dieu, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, ni après-demain, ni dans un mois, dans un an. C'est pas au ciel. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous servons le Seigneur en nous retrouvant pour le célébrer. Au chapitre 12 de l'évangile de Luc, il relatait une parabole intitulée dans les sous-titres non inspirés, celle du riche insensé, un homme qui centrait sa vie sur ses biens. Il devait être agriculteur ou cultivateur, bref. Et il pensait déjà qu'il allait jouir de ses récoltes futures. C'est pourquoi il envisageait de construire d'autres greniers pour pouvoir tout emmagasiner. Et il lui fut dit, insensé, insensé, même si son raisonnement avait une certaine logique, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et les greniers, ce sera pour qui ? Il ne va pas les emporter au ciel, ces grains de blé. Ben, vanité dit vanité, aurait dit l'Ecclésiaste. Donc cet homme riche insensé, prétendait contrôler sa propre voix, sa propre vision de l'avenir. Seulement, apparemment, ce n'était pas le projet du Seigneur. Et nous sommes invités à prier chaque jour pour ceux qui ont appris la prière au catéchisme, pour notre pain quotidien. Et notez bien, il est dit chaque jour, pour le pain quotidien, donc prier chaque jour pour le pain du jour même, pas pour le pain du lendemain, chaque jour. Dieu nous accorde sa grâce qui est non seulement suffisante, mais toute suffisante. Et il nous a dit, enfin il a dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais c'est plus fort que nous, nous inquiétons quand même, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, vous. Hein? Bref. On s'inquiète forcément un tout petit peu. Alors certains s'inquiètent beaucoup, ils tombent dans la dépression. Mais bon, c'est un autre problème. Le lendemain aura soin de lui-même, parce que Dieu sera encore là. Et il manifestera sa grâce à tous, et d'abord à ses enfants. Mais ce n'est pas facile à vivre. Hein. On sait beaucoup de choses, mais les mettre en pratique, bon. Donc, nous sommes face à l'inconnu, enfin, à vue humaine. Qu'est-ce qui va nous arriver dans la suite de 2020, pendant les 10 mois qui restent? Si nous sommes en vie, bien sûr, bon, enfin, ça, c'est un présupposé. Est-ce que nous serons victimes d'un accident? C'est si vite arrivé, comme on dit. Est-ce que nous tomberons malades? Pas forcément par l'invasion d'un virus. Est-ce que nous subirons une intervention chirurgicale? Est-ce que nous serons licenciés? Enfin, ça, c'est pour les retraités. Est-ce que nous connaîtrons des problèmes conjugaux ou familiaux? Et là, ça arrive, hein, même chez les chrétiens. Est-ce que nous serons confrontés au deuil? Est-ce que nous aurons des problèmes financiers? Ça, c'est déjà assez courant. Nous faisons des projets. Vous en avez sans doute fait déjà pour janvier et février 2020. Est-ce qu'ils sont réalisés? Il y a que vous qui puissiez le dire. Hein? Plus ou moins. Alors, combien d'attention, de résolution, de programme, de planification ne sont-ils pas anéantis brusquement de façon imprévisible? N'est-ce pas? Et là, c'est la catastrophe. L'an dernier, je suis revenu d'un voyage aux Antilles. Et je suis parti en avion depuis la Havane jusqu'à Roissy, Charles de Gaulle. À l'arrivée, j'ai été poussé à donner un Nouveau Testament Gédéon à l'hôtesse de l'air, une femme très costaud, enfin, elle était plus grande que moi, je crois. J'avais presque peur. Une Espagnole, je lui ai demandé, qui a accepté volontiers. Et puis j'ai aussi donné un Nouveau Testament au steward qui saluait les passagers à leur sortie de la cabine. Bon, j'ai appris le lendemain que de la Havane aussi, le lendemain donc, un avion cubain était parti vers l'est de l'île et il s'est écrasé peu après le décollage dans les montagnes. Et à bord se trouvaient 10 pasteurs et missionnaires évangéliques. Aucun survivant. Eh bien, ses frères ne se doutaient pas qu'ils s'embarquaient pour le paradis. Leur vie était brutalement stoppée. Alors on peut se dire, mais pourquoi Dieu les a repris alors qu'ils pouvaient être encore utiles pour l'évangélisation? Et puis d'un autre côté, un pauvre bougre donne des Nouveaux Testaments. Alors, il n'y a pas de règles. Dieu est souverain. Et cela nous rappelle donc l'éphémère et la fragilité de notre vie. Alors, si nous sommes dans l'incertitude quant à notre avenir terrestre, nous avons heureusement des certitudes. Deuxième partie. Pour citer le témoignage de l'apôtre Paul, que nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 22, Paul avait fait venir les anciens de l'église d'Éphèse, donc en Asie mineure, pour prendre congé d'eux, il allait partir. Ils se sont retrouvés, je crois, sur une plage. Et ils étaient donc, en somme, convoqués. Et Paul leur dit, « Et maintenant, voici, liés par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Il savait où l'aller, mais pas ce qui se passerait. Et il était donc dans l'incertitude. Et il ajoute, seulement, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Donc dans un autre sens, il savait, parce que Dieu lui a parlé, par l'Esprit, qu'il allait connaître de grandes difficultés. Et il ajoute encore, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, donc je ne reviendrai plus vous voir. » Alors, dans un sens, Paul ne sait pas, il y a une incertitude sur ce qui se passera à Jérusalem, mais dans un autre, il sait. Il sait que ça ne sera pas un voyage de plaisir. Alors nous, vous avez des certitudes, vous, chers amis ? Oh, bah oui. Hein ? Il y en a qui sont fondées sur des choses, des lois, pardon, naturelles. Hein ? Nous sommes en hiver, sauf erreur. Même si la douceur relative de certaines journées nous amènerait à en douter. Puis ce sera bientôt le printemps, les feuilles, les petites fleurs. Hein ? La durée du jour va augmenter. Jusqu'au 21 juin, ça c'est une certitude. Il y a des lois physiques qui ont été établies par Dieu. Et puis, au cours de cette année, se passera un événement extraordinaire. Vous aurez une année de plus, quel que soit votre âge. C'est peut-être déjà fait d'ailleurs, hein, ceux qui sont nés en janvier ou février. Et puis des personnes vont mourir, hélas. Peut-être nous, qui sait, Dieu le sait. D'autres vont naître, etc. Et puis il y a des certitudes qui sont fondées sur l'expérience, sur la vie que nous avons connue et que nous connaîtrons. Par exemple, il y a encore, sauf erreur, 47 cultes à célébrer en 2020. Encore pas au bout, hein ? Alors tenez le coup. Puis chaque matin, nous nous lèverons comme le soleil. Nous nous coucherons le soir comme le soleil. Enfin, je ne parle pas des cas particuliers, des noctambules, hein, des insomniaques ou du personnel qui est de service de nuit. Et puis chaque jour, je poserai cette question lancinante. Ah, qu'est-ce que je vais encore faire à manger ce soir ? Ben, le mieux, c'est de ne pas manger. C'est ce que je fais moi souvent maintenant. Je suis seul, alors c'est plus facile. Alors, tout ce qui constitue notre vie quotidienne se répétera. Nous en sommes certains. Et la vie d'Église ? Est-ce qu'elle se répète ? Ben oui, dans un sens, elle se répète. Le dimanche, on va à l'église, donc ça se répète. Nous allons, avec certitude, nous retrouver, soit en études bibliques, soit en réunion de prière, soit à l'église même le dimanche, etc. Et puis, d'un point de vue de notre vie spirituelle, nous sommes assurés de retrouver la même Bible. Pour changer de traduction, mais enfin, ça c'est une question de forme. Nous sommes assurés de retrouver les mêmes frères et sœurs, les mêmes têtes. Il y en a qui ne reviennent pas parfois. Enfin, les frères et sœurs, je veux dire. Nous allons retrouver le même Dieu qui se révèle dans cette parole. Nous allons retrouver le même Sauveur Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Ça ne va pas changer. Ça, c'est une certitude. Mais est-ce qu'il n'y a que cela ? Pour nous, disciples de Christ, il y a des certitudes durables qui sont indépendantes des millésimes ou des années bissextiles. Il y a de vraies certitudes, vous les connaissez, et ces vraies certitudes s'appuient sur la parole de Dieu. Je vais en citer juste quelques versets. Celui qui a le Fils, écrit Jean, 1 Jean 5, celui qui a le Fils a la vie. C'est pas il aura la vie. Il a la vie, c'est donc une certitude. C'est quelque chose d'accompli. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, etc., ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, fin du chapitre. Ça, c'est un beau verset. Jésus parlant à ses disciples, personne ne les ravira de ma main. C'est une certitude. Jean 10, 28. C'est avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ? Hébreux 13, 6. Et enfin, nous avons appris de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Il nous écoute. Il fait plus qu'entendre. Il écoute, c'est-à-dire qu'il prête attention. Alors voilà quelques versets, pour en citer beaucoup d'autres, qui nous font du bien. N'est-ce pas, frères et sœurs ? Voilà les véritables certitudes, celles qui sont nôtres, nous, disciples de Jésus-Christ. Alors, puissions-nous ne pas les oublier en 2021 ? Moi, je suis déjà dans l'avenir, hein, en 2020, mais il faut aussi penser à la suite, que nous ne connaissons pas, heureusement. Et ces certitudes doivent nous encourager, nous soutenir dans les épreuves que nous connaîtrons peut-être. Épreuves qui nous incitent généralement au découragement ou au doute. C'est affreux. Enfin bref. Alors, comment vivre cette apparente contradiction entre l'incertitude et les certitudes ? Connaissons les deux, n'est-ce pas ? Chaque jour. Je sais, d'un côté, et de l'autre, je ne sais pas. Certitude, incertitude. Ou incertitude, certitude, prenez-le dans le sens que vous voulez, ça ne change rien. Alors, troisième et dernière partie, donc, en somme, en conclusion, en résumé, attitude. Psaume 31, versets 15 et 16. En toi, je me confie, ô Éternel. Je confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Ça, c'est le constat. C'est en principe ce que nous devons ressentir. Autrement dit, notre confiance ne repose pas sur notre connaissance de l'avenir, puisque nous sommes dans l'incertitude. Elle ne repose pas sur notre contrôle sur tous les éléments et tous les événements. Non. Notre confiance repose sur Dieu, sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit, parce que Dieu connaît et maîtrise toutes choses. Donc nous pouvons lui faire confiance. Comme nous l'avons lu, Jacques écrit, c'est de nouveau le chapitre 5 de son épître, verset 15, « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Si Dieu le veut, vous connaissez l'expression, non ? Vous n'osiez peut-être pas l'utiliser. Paul l'a fait à plusieurs reprises, hein, acte 18, 1 Corinthiens 4. Bien des chrétiens disent « Dieu voulant ». Je pense que vous en avez rencontré. Hein. Quand on se reverra, par exemple, tel jour, Dieu voulant. Hein. Oui, ça. On comprend ce que ça veut dire. D'autres écrivent « D.V. » Ça vient du latin « Deo volente ». C'est « Dieu voulant », c'est pareil. Vous pouvez parler français ou latin, ça ne change rien. Alors, ce Dieu voulant n'est pas une formule pieuse ou une formule magique. C'est la reconnaissance, et une reconnaissance, on pourrait qualifier de solennelle, que notre avenir appartient à Dieu. Que notre vie est entre les mains du Seigneur, je me répète un peu, mais enfin c'est quand même l'important. Et que chaque jour qui passe est un jour de grâce. Ce 1er mars 2020 est un jour de grâce, frères et sœurs. En êtes-vous conscients ? Ouais, bon, on verra demain. Hein. Vous direz a posteriori, oui, c'était un jour de grâce. Mais demain sera aussi un jour de grâce si Dieu nous l'accorde. Alors, est-ce que ces certitudes, frères et sœurs, ces certitudes fondées sur l'Écriture, ne nous aident-elles pas à vivre dans l'incertitude ? Nous avons des certitudes. Un caractère spirituel. Et elles vont nous aider à vivre dans l'incertitude de ce monde, des événements de ce monde. Alors, quoi qu'il se passe demain, je ne sais pas trop, nous allons nous accrocher encore à ces mêmes certitudes. Elles ne changent pas. Est-ce que nous allons être des porteurs de certitudes ? Des gens qui dégagent une certitude intérieure ? Non pas par supériorité ou par orgueil, Jacques met en garde contre les pensées orgueilleuses de certains projets, mais des certitudes que nous pourrons exprimer au sein de la certitude générale. De quoi nos contemporains ont-ils besoin? Nos voisins, nos collègues de travail, nos parents proches, inconvertis, ils ont besoin de certitude. Et de celle-ci principalement, de savoir où ils vont. Parce que bien des gens courent, mais ils ne savent pas où. L'avenir pour la plupart, hélas, c'est quoi? Ben rien. Il n'y a rien. Au-delà d'une tombe ou d'une urne funéraire, il n'y a rien pour eux. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de certitude. Ben, ils font une drôle de tête quand ils comparaîtront devant Dieu. Enfin, déjà avant, quand ils seront enfin du mauvais côté. Alors, c'est à nous d'annoncer qu'il y a des certitudes fondées sur l'Écriture, et pas des paroles d'hommes. Mais ces certitudes ne sont accessibles que par la foi en Jésus-Christ. Nous savons ce que dit l'Écriture, n'est-ce pas? Certains connaissent la Bible par cœur, hein. Je ne sais pas si c'est parmi vous, oui, peut-être, hein. Enfin, c'est une façon de parler. Parce que la connaître par cœur, c'est... Bon, enfin bref, c'est surhumain. Nous savons ce que l'Écriture dit au sujet de l'avenir, de la providence divine. Alors que ceux que nous côtoyons généralement, bien, ils rejettent la réalité de la puissance de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Et ils refusent de ne pas pouvoir contrôler leur propre vie. Aujourd'hui, l'homme veut tout contrôler, même le climat. Ben, éloignons. Quand le ciel leur tombera sur la tête, ils diront « oui, c'est raté ». On veut tout dominer, tout maîtriser, finalement même la mort. Alors, frères et sœurs, en conclusion, l'Écriture nous rappelle ce matin que notre avenir appartient à Dieu. Notre lendemain ou nos lendemains appartiennent à Dieu. Alors, l'Écriture est solennelle, elle rappelle à ceux qui voudraient se placer au-dessus de la providence divine que leur vie est vraiment peu de chose. Une vapeur, une fleur qui sèche ou qui fane. Alors, restons dans l'humilité de la foi, exerçons notre confiance en Dieu. Ça, nous le faisons, je pense. Plus ou moins, selon les jours, mais nous le faisons. Et puissions-nous dire, Dieu voulant, à bon escient. Hein? Pas quand nous allons acheter une pizza au coin de la rue. Hein? On peut demander qu'est-ce qu'on peut empoisonner, mais enfin bon. Puissions-nous dire, Dieu voulant, avec solennité, avec sérieux. Et finalement, que ce soit un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui refusent de dépendre de Dieu, pour ceux qui sont interpellés par les catastrophes dites naturelles, mais qui ne changent pas pour autant leur attitude vis-à-vis de Dieu, j'entends. Pour ceux qui portent des masques d'optimisme, mais il n'y en a plus dans les pharmacies, on a dit tout à l'heure, hein. À ceux qui font des projets mirobolants, qui peuvent être instantanément anéantis. Alors, terminons par quelques versets. On va revenir au psaume, puisqu'on est dans les psaumes aujourd'hui. Oh là là, oh là là. Psaume 33, c'est un psaume que j'aime beaucoup, surtout la fin, et qui sera notre, vraiment, notre dernier mot. Psaume 33, versets 20, 21, 22. C'est un psaume de joie, d'après ce titre. Notre âme espère en l'Éternel. Et il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Ou car nous espérons en toi. C'est le résumé. Fin. A-I-N, même si vous avez faim.